Bonjour Elie Düring, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Nous parlons d'un article que tu as écrit pour la revue Critique, le numéro 903-904 d'août-septembre 2022. Cet article a donc un an. Dans cette revue Critique, c'était pour le dossier Vous avez dit Nature, dossier que tu as co-organisé. Et donc nous parlons de ton article qui s'appelle Bruno Latour et les extraterrestres. Et pour cet article, tu as fait usage du livre écrit par la scientifique, par l'exobiologiste Nathalie Cabrol, et c'est ton point de départ dans cet article. Et j'aimerais que tu nous parles de la lecture que tu as fait de Voyage aux frontières de la vie de l'exobiologiste Nathalie Cabrol.
Oui, alors c'est en effet le point de départ, ce livre de Nathalie Cabrol. Entre-temps, elle en a publié un nouveau. Ce livre, alors est-ce qu'elle est exobiologiste au sens strict? Peut-être non. Au fond, elle a une formation de géologie planétaire, mais en fait, par extension, et peut-être en généralisant, on peut l'appeler exobiologiste parce qu'elle s'intéresse en effet à la question de la vie extraterrestre, littéralement. Son livre m'a beaucoup intéressé parce qu'elle y décrit notamment son activité évidemment de scientifique, mais aussi la pratique de la plongée dans des lacs andins en très haute altitude où elle essaye de retrouver en s'immergeant donc dans des bancs d'algues vertes, en prélevant des cyanobactéries, elle essaye de retrouver des conditions qui auraient pu être celles de la formation de la vie sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Mais elle le fait, et c'est ça qui m'a fasciné immédiatement dans son texte, elle le fait en se branchant mentalement sur la vie extraterrestre, ou la possibilité d'une vie extraterrestre, en l'occurrence Mars, puisqu'elle a été impliquée dans plusieurs missions de la NASA qui consistent à aller faire un travail d'exploration et aussi de prélèvement de la surface de la planète Mars. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de travailler sur cette diagonale Terre-Mars en essayant de retrouver dans certaines traces de vie terrestre primitive une sorte d'analogue ou de métaphore de ce que pourrait être aujourd'hui, de ce que pourrait être encore aujourd'hui quelque chose de la vie extraterrestre. Et c'est cette espèce de position subjective étrange hein, qui prend en diagonale comme ça l'espace interplanétaire qui m'a immédiatement intéressé, au-delà des enjeux scientifiques et même métaphysiques qu'elle évoque également. Donc j'étais parti de là, de cette espèce de construction d'un pont, d'une arche métaphorique ou analogique qui permet de penser la Terre et Mars, non pas exactement comme des planètes jumelles, de toute façon elles sont dans une sorte de rapport de décalage temporel l'une par rapport à l'autre, mais plutôt hein, quelque chose comme un rapport métaphorique où l'imagination scientifique peut se transporter d'un lieu à l'autre, retrouver la Terre comme un palimpseste qui témoignerait d'une sorte de coévolution au-delà des limites habituelles, ce qu'on appelle la zone critique, cette enveloppe fragile qui entoure Gaïa, quoi. Il y a quelque chose là qui excédait immédiatement cet imaginaire géocentré, planétocentré, qui est un peu le ton dominant, je dirais, de la conversation philosophique aujourd'hui.
Alors, tu viens d'employer le terme de Gaïa. Cette scientifique va te permettre de penser à nouveau frais la Gaïa de Bruno Latour, on va dire la version de Bruno Latour concernant Gaïa.
Oui, et donc le titre de l'article, non, puisque c'est de ça qu'on parle, Bruno Latour et les extraterrestres, je précise qu'extraterrestre est placé entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas littéralement, et quelle que soit la signification qu'on leur donne, des extraterrestres, petits bonshommes verts ou cyanobactéries martiennes, mais il s'agit justement d'une sorte de retournement du terme terrestre tel que Latour, dans le contexte de ses recherches autour de l'hypothèse Gaïa, l'a employé. Donc, Latour parle des terrestres, de ce peuple, très largement inconscient de lui-même encore, et auquel au fond, il demande de prendre plus clairement conscience de ses propres enjeux. Les terrestres, ça désigne au fond la condition commune qui est celle d'une humanité qui se rend compte de plus en plus vivement et un peu à ses frais quoi, de son intrication avec disons, la niche écologique qu'elle a contribué à transformer. Et donc dans l'horizon des bouleversements climatiques qu'on connaît, donc la tour réinvestit l'hypothèse Gaïa qui n'est pas strictement de lui, enfin lui donne un sens nouveau pour métaphoriser un peu cet enjeu général qui est de prendre disons, conscience de notre condition de terrestre. Et donc moi j'appelle extraterrestre justement une autre version possible de ce commun de l'humanité, une autre prise de conscience possible qui serait la condition extraterrestre de l'humanité, extraterrestre au sens vraiment littéral, ce serait la première strate qu'on pourrait discuter ou explorer, c'est le fait que selon un certain nombre de théories scientifiques qui remontent à loin, hein, mais qui rejoignent aussi une sorte d'imaginaire panspermiste, la vie, le développement de la vie terrestre et donc singulièrement de la vie humaine serait une sorte de résidu, une sorte de produit dérivé d'un processus qui s'étend sur des milliards d'années et qui concerne pas spécifiquement la planète Terre. Donc l'idée qu'on ait des poussières d'étoiles, l'idée que la vie aurait pu se propager sur la Terre à partir de rafales de météorites qui auraient atteint la surface de notre planète, etc. etc. Bon, c'est des questions qui sont débattues, qui sont des vrais enjeux scientifiques aujourd'hui et qu'on ne peut pas totalement ignorer. Ça, c'est la première strate. Après, il y en a d'autres, bien d'autres, y compris des enjeux politiques, mais on pourra en évoquer quelques-uns. Mais c'est ça qui me faisait dire qu'il y avait quelque chose à travailler du côté d'une hypothèse extraterrestre qui serait l'hypothèse d'une version possible de l'humanité, avant d'envisager de façon plus directe et frontale la question de l'existence des extraterrestres, ou disons d'une vie extraterrestre. C'était la question de notre mode d'existence à nous, humains. Est-ce que la question ou l'enjeu se résume à ce que la tour en a dit, et de façon très vive dans ses derniers livres, ou Atterrir, Gaïa, évidemment, l'enjeu d'une sorte de prise de conscience de notre condition terrestre. Je pense qu'il est tout aussi urgent de prendre conscience de notre condition extraterrestre, en un sens justement qu'il faut préciser un peu.
Alors, il y a aussi cette idée que cette question extraterrestre offre l'occasion de tester la capacité d'accueil du projet diplomatique de la tour. C'est quelque chose aussi qui te travaille dans l'article, c'est tester les possibilités d'accueil du projet latourien. Tu en fais quelque chose à penser.
Oui, parce qu'au fond, la question, c'est s'il existe des extraterrestres au sens que j'ai en vue. Et donc, disons, la première détermination du collectif extraterrestre, dont j'essaie de définir les contours, la caractérisation la plus immédiate, la plus littérale, ce serait des gens, des collectifs, peut-être très hétérogènes, mais enfin qui ont tous en commun de s'intéresser aux extraterrestres. Donc ce que j'appelle ici les extraterrestres, c'est les humains ou les collectifs humains qui prennent la question extraterrestre au sérieux, au fond, pour aller vite. Et donc immédiatement, la question en retour adressée à la tour, c'était jusqu'à quel point, en effet, le projet diplomatique qui consiste à incorporer dans cet horizon terrestre a priori maximalement accueillant et ouvert, de tester la capacité d'y incorporer, de donner une place aux extraterrestres, sur un mode qui ne soit pas celui, non pas du rejet ou de l'exclusion, hein, c'est pas du tout la manière de la tour, il est en effet hyper accueillant et diplomatique, mais qui ne soit pas l'assignation, disons, a priori, à un imaginaire que la tour décrit très bien, mais dont on peut se demander d'ailleurs au fond ce qu'il décrit exactement, à qui il s'applique exactement et qu'il appelle, disons, l'imaginaire naturaliste. Est-ce que les extraterrestres, que ce soit les scientifiques comme Nathalie Cabrol, que ce soit les obsédés d'ufologie, les enquêtes sur les ovnis, ou que ce soit des philosophes autour d'esprits métaphysiques qui s'intéressent à la question de la vie dans l'univers, ces extraterrestres-là, est-ce qu'ils peuvent être accueilli dans l'horizon de l'enquête latourienne, autrement que comme les représentants un peu attardés quoi, de ce qu'il appelle, lui, le naturalisme, c'est-à-dire, au fond, une position un peu hors sol qui consiste à penser notre petite affaire humaine comme une émulsion à la surface de la planète, mais qui s'insérerait dans un vaste univers gouverné par des lois physiques éternelles, et dont on pourrait en effet se demander si, objectivement, il contient autre chose que de la vie terrestre. Pour Latour, cette manière d'aborder le problème extraterrestre est généralement et immédiatement indexée à ce qu'il appelle, lui, le naturalisme, c'est-à-dire justement aussi, d'un point de vue politique, une certaine manière de séparer les questions de fait, quoi, les questions objectives, les questions scientifiques et les questions humaines ou culturelles ou politiques. C'est une façon de partager les sphères d'activité et d'intéressement qu'il appelle le naturalisme. Et bon, pour terminer sur ce point, moi il me semblait que ceux que j'appelle les extraterrestres répondent assez mal à cette description, enfin correspondent assez mal à cette description du naturaliste attardé. Ça pourrait convenir à quelques scientifiques, à la rigueur, hein, qui travaillent à la NASA ou dans ces parages, mais je dirais pour la majorité des gens pour lesquels la question extraterrestre est un enjeu vif et vivant, la catégorie naturalisme, je pense, s'applique assez mal.
Par exemple, à Nathalie Cabrol.
Surtout pas à Nathalie Cabrol, toute scientifique qu'elle est, et toute soucieuse qu'elle soit de, en effet, mettre en évidence des faits objectifs concernant l'exovie, pour aller vite, dans des contextes extraterrestres habitables, eh bien, elle est aussi animée très manifestement par disons, des enjeux, des questions qui sont à la fois subjectivement très intenses, c'est manifeste dans son écriture, et qui aussi résonnent immédiatement avec des questions métaphysiques tout à fait partageables, qu'on peut réactiver, qui renvoient pour une part au pari pascalien, et pour une part à quelque chose d'un peu indiscernable, d'un peu indécis, qui concernerait justement l'hypothèse d'une vie étendue, d'une vie qui ne se définirait pas strictement par rapport à ce qu'on connaît de la vie humaine ou animale, et qui peut-être serait mieux caractérisée par des moyens extra-biologiques. C'est ça qui est tout à fait nouveau. On essaye de penser la vie aux frontières du vivant et du non-vivant aujourd'hui, avec des outils tout à fait nouveaux. C'est un des enjeux de l'exobiologie.
Alors, est-ce que tu peux parler un peu plus de ce concept de vie étendue ? Parce qu'elle n'est peut-être pas centrale complètement dans ton article, mais néanmoins, c'est quelque chose peut-être qu'il y a à faire entendre. Ouais. Ce concept de vie étendue, effectivement, on l'entend de plus en plus, et ça peut nous permettre de mieux, comment dire, appréhender le phénomène extraterrestre autrement que ufologique, autrement que petits hommes verts.
Oui. Disons, la vie étendue, d'ailleurs, les anglo-saxons ont des ressources pour le dire. Ils ont commencé à orthographier « life » avec un Y. Et donc, pour que ça s'entende à l'oreille, il le prononce « loif », une sorte d'accent vaguement écossais. Quoi. Et en français, on pourrait dire « la vie » avec un Y, V-Y-E, et il faudrait le prononcer « la vaille », quelque chose comme ça. Donc la vaille, la loif, l'idée de la vie étendue, en fait, c'est l'idée d'une... Enfin, c'est le projet ou c'est la proposition qui consiste à travailler, à enquêter sur la possibilité d'une vie extraterrestre en faisant l'économie d'un certain nombre de présupposés que jusqu'ici on avait admis pour enquêter sur les phénomènes organiques, sur les questions d'évolution, etc. Et notamment une certaine idée, par exemple, de la place essentielle que remplit le carbone, par exemple, dans le développement des formes de vie primitives. Aujourd'hui, on explore de façon assez sérieuse la possibilité que la vie puisse s'étayer sur du silicium, par exemple, qui est présente abondamment dans l'univers, ou sur d'autres modèles qui n'auraient en commun, du coup, qu'une sorte d'abstraction formelle de ce que pourraient être les conditions essentielles, mais au fond abstraites, de tout ce qu'on croit savoir de la vie sur Terre, et réduites à une sorte de quintessence. Donc pourrait lister les 4 ou 5 caractéristiques fondamentales de la vie au sens étendu, mais l'une d'elles, par exemple, c'est une propriété, mais à nouveau très formelle, d'autoréplication. Pas forcément sur le mode ADN, mais qui est au moins, voilà, pour qu'on puisse parler de vie, il faut au moins cette capacité d'autoréplication sur quelque chose comme une phylogénèse, une filiation. Bon. Il y aurait des caractérisations du même ordre touchant par exemple la question de l'interaction avec le milieu, la capacité d'un vivant, entre guillemets, ou d'un va-y-vant, comme il faudrait dire maintenant, à interagir avec son milieu toujours un peu loin de l'équilibre, hein, toujours dans un rapport de transfert énergétique instable, hein, qui implique que ça reboucle pas exactement sur soi, donc possibilité de détruire sa niche écologique, mais aussi de la consolider, et bref, un ensemble de caractéristiques, mais énoncées à un niveau très formel, en utilisant aussi hein, des outils scientifiques, et notamment de théories physiques comme la thermodynamique, comme la théorie de l'information, enfin, pour cerner en quelque sorte le concept de vie de l'extérieur, depuis ses bords. Justement, depuis la frontière entre vie et non-vie. Alors ça, c'est une question que toutes sortes de gens retrouvent aujourd'hui, bon, y compris pour parler de la vie sur Terre. Je pense au travail de Thomas Sims sur l'infravie. Enfin bon, c'est une question qui est dans l'air depuis longtemps, mais là, dans le cas de l'exobiologie, ça devient absolument vital, parce que s'en tenir à une idée, en quelque sorte, géocentrée de ce qu'est la vie ou ce que doit être la vie ailleurs, ce serait absolument ruineux, puisque ce serait s'interdire de la détecter, en vérité. Là, l'idée, puisqu'on n'en est pas du tout encore, à prélever des échantillons et à faire de la chimie extraterrestre, on en est à faire de la spectrographie, donc en analysant le rayonnement des planètes supposées habitables. Il y a des rovers qui sillonnent la surface de Mars et qui essayent de détecter des choses, mais bon, on est quand même très loin de pouvoir intensivement étudier des phénomènes des phénomènes de proto-vie sur des planètes habitables ou supposées l'être. Donc, on est obligé de s'en remettre à ce qu'ils appellent, et Nathalie Cabrol en parle un peu dans ses livres, et je trouve l'expression elle-même passionnante, enfin très, très stimulante d'un point de vue épistémologique, ils appellent ça des méthodes agnostiques. Bon, sous-entendu, on ne sait pas très bien ce que c'est que la vie, on met cette question en suspens. Donc, agnostique, ça ne veut pas dire que... on est agnostique quant à savoir s'il y a de la vie extraterrestre. Ils sont tous, je dirais, méthodologiquement croyants, au sens où il n'y aurait pas de projet scientifique si on ne faisait pas l'hypothèse que c'est possible et que c'est même très vraisemblable. Mais ils sont agnostiques quant aux manières de détecter cette vie et certainement quant au concept même de la vie. On ne sait pas très bien ce que c'est que la vie. Et donc, à nouveau, hein, le prototype qu'on a de la vie organique, telle qu'on la connaît sur Terre, ne doit pas constituer un obstacle épistémologique qui nous empêcherait de détecter des formes de vie totalement autres. Et donc, parmi les outils de recherche et de détection qui sont mis en œuvre, il y a des procédés d'intelligence artificielle, hein, qui consistent à scanner simplement à partir de documents photographiques la surface d'une planète pour y détecter, et là c'est presque de l'ordre du bruit ou de l'anomalie statistique, y détecter quelque chose comme ce qui pourrait être interprété comme les traces d'un processus d'habitation, des structures d'accrétion, enfin des sortes d'architecture absolument minimale qui pourraient attester du fait que des bactéries ont commencé à travailler le sol de cette planète, peut-être il y a des millions d'années. Mais c'est un type d'approche du phénomène de la vie qui est absolument, absolument nouveau, méthode agnostique, et que je trouve passionnant pour cette raison. Donc la vie étendue, c'est pas simplement un projet spéculatif ou une hypothèse scientifique, c'est aussi des techniques de mise en œuvre de nouveaux modes de détection qui devraient nous faire réfléchir.
Alors, je renvoie les auditeurs et les auditrices à l'interview que j'avais eue justement pour le livre Infravie de Thomas Sims, parce qu'effectivement, c'est un livre dans la collection Sciences Ouvertes, je crois, aux éditions du Seuil, paru maintenant il y a peut-être 7-8 ans, qui était vraiment important, enfin qui permettait au grand public non scientifique d'avoir en main justement et en idée ces différents concepts. Tu as bien parlé de la méthode agnostique. Tout à l'heure, tu as parlé tu as juste eu l'expression de pari pascalien.
Oui.
On a en tête le pari pascalien, peut-être peux-tu le rappeler? Et peut-être peux-tu nous parler de ce qu'on peut en faire nouvellement, c'est-à-dire quel serait le nouveau pari pascalien avec cette idée derrière la tête d'existence de vie extraterrestre dans l'univers.
Oui, alors il y a plusieurs éléments. Le pari de Pascal, le texte célèbre des pensées de Pascal où il est question d'un pari, on l'a tous en tête et je vais juste en rappeler l'enjeu général. Donc la question est de savoir si on a raison, si on a des raisons de croire, si on a de bonnes raisons de croire en l'existence de Dieu, en l'occurrence. Bon. Mais l'arrière-plan, c'est plutôt l'arrière-plan de ce pari. C'est les conditions du pari qui m'intéressaient par rapport à la question extraterrestre chez Pascal, c'est très clairement, et ça s'est thématisé chez lui de plein de façons, c'est le sentiment d'une sorte de solitude cosmique, voire d'un acosmisme, c'est-à-dire d'un univers dont on sait déjà à l'époque de Pascal qu'il est démesurément grand et tout à fait hors de proportion par rapport à la situation humaine et à la position de l'homme, encerclé par deux infinis qui l'enferment et le fuient. Bon. L'homme est comme en apesanteur dans un univers complètement décentré. Bon, c'est post-copernicien, post-giordano-brunien. Et Pascal, prenant acte de ça, pose la question d'une espèce de solitude métaphysique. Et c'est l'arrière-plan qui lui permet de formuler dans sa plus grande radicalité la question de l'existence de Dieu ou d'un mode d'existence qui serait celui du croyant ou du chrétien, dont il dit qu'il faut parier qu'il est en fait préférable à tout autre. Il faut parier. Nous sommes embarqués. Alors, il y a toutes sortes d'arguments dans le pari pour dire que d'une certaine façon, on n'a pas le choix, que ne pas parier serait une folie. Refuser le pari serait en fait une manière d'avoir fait le mauvais choix dans le pari, d'avoir fait la mauvaise mise en quelque sorte. Mais je passe là-dessus, donc en extrayant simplement la condition d'arrière-plan de ce pari pascalien, je me dis que la situation aujourd'hui, elle est presque à l'inverse, ce serait presque un négatif photographique de la situation pascalienne. Sur quoi on parie quand on parle de la question extraterrestre ? On parie sur en effet l'existence de vie ou de mode de vie extraterrestre. L'hypothèse, justement, elle est à nouveau inverse à celle de Pascal, c'est que nous ne sommes pas seuls. Alors que chez Pascal, la question n'était pas du tout de savoir si on est seul ou pas seul, la question est de savoir s'il y a autre chose que l'homme ou autre chose que l'univers, d'une certaine façon, à savoir un dieu transcendant, un dieu caché. L'enjeu n'est plus celui-là, l'enjeu c'est de savoir le pari consiste à savoir si on peut en effet se considérer comme faisant partie d'une vie étendue, étant une sorte d'archipel ou de province, d'un empire de la vie distribué, alors distribué de façon très rare et un peu sporadique à l'échelle de l'univers tout entier. Ou pour retourner la chose, la question serait, je ne sais plus qui posait cette question que je trouve amusante, les extraterrestres sont-ils seuls dans l'univers ? Évidemment, la question est entièrement réversible, et eux aussi doivent parier à leur façon, et au fond dans les mêmes termes. Mais la condition d'arrière-plan, en effet, c'est plus du tout celle d'une solitude métaphysique radicale, c'est celle d'une plausibilité de plus en plus grande, et en tout cas d'une orientation, d'une partie de l'activité scientifique dans cette direction. La direction d'une vie étendue, et déjà effectivement étendue au-delà des limites terrestres. Et donc, du coup, pour moi, l'enjeu serait de formuler, et j'en suis vraiment aux prémices, donc je suis incapable de proposer à ce stade une réponse philosophique, mais de formuler ce que serait, par analogie stricte, ce que serait aujourd'hui la place du dieu absent de Pascal, enfin du dieu existant, mais absent au sens du dieu caché, disons, qui s'est absenté de la nature. Quelle forme prendrait cette proposition-là ? Il faudrait la retravailler, lui redonner une toute autre portée, mais il me semble que, pour le dire plus simplement, si on fait le pari de l'existence extraterrestre, il faut que l'enjeu de ce pari devienne formulable. L'enjeu du pari de Pascal, c'était l'existence de Dieu. Alors aujourd'hui, si on parie sur l'existence d'une vie extraterrestre, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour nous ? Est-ce que c'est un pari sur la signification de l'humain ? Est-ce que c'est un pari sur la signification du processus universel, qu'on appelle vie ou d'un autre nom ? Et si on veut remettre Dieu dans l'affaire, quelle est cette figure du divin ou cette figure théologique qui correspondrait à la situation présente ? Bon, c'est des questions qui ne sont pas entièrement neuves, au sens où, d'une certaine façon, tous ceux qui sont intéressés de Bergson à Carl Sagan, en passant par Teilhard de Chardin, et avec des réponses très différentes à chaque fois, qui sont intéressés à la question extraterrestre, soit pour, pour faire le pari que oui ou faire le pari que non. Tout cela, à un moment donné, ont croisé la question théologique, selon des figures du divin tout à fait diverses, là aussi.
Et de manière très étonnante, Bruno Latour, qui lui était un croyant de Dieu, parce qu'on oublie souvent quand même le côté religieux de Bruno Latour, que les latouriens souvent évacuent et ne veulent pas entendre parler, mais enfin, il a quand même écrit ce grand livre que j'aime beaucoup, justement, Jubilé ou la parole religieuse, qui est très très beau, un peu répétitif.
Les tourments de la parole religieuse.
Ah voilà, c'était ça exactement. Oui, j'avais pas le titre exact en mémoire, mais tout de même, c'est de notoriété que Bruno Latour ait fréquenté avec assiduité tout de même le monde religieux, et puis il était très attentif notamment à l'encyclique du pape de 2015, Laudato Si, qu'il a vraiment recueilli de manière peut-être merveilleuse, et puis sa proximité avec le collège des Bernardins aussi, enfin bref, tout ça est quand même assez acté, même si c'est refoulé par les latouriens, notamment
souvent.
Scientifiques. Et néanmoins, curieusement, Bruno Latour n'en a pas fait le lien que tu opères.
Non, il le fait pas. Bon, alors de fait, on n'a pas abordé cette question de fond. Je vais revenir à la question de la religion chez Latour, mais Latour non seulement n'est pas, pour revenir à ce dont on discutait tout à l'heure, il n'est pas très accueillant, me semble-t-il, quand il s'agit des extraterrestres, c'est-à-dire des populations humaines ou des collectifs humains qui s'intéressent de trop près ou trop intensément à la question extraterrestre. Il les soupçonne toujours d'être des naturalistes attardés ou de perpétuer une sorte de position hors sol, hein, qui consiste à regarder les étoiles au lieu de s'occuper des affaires humaines et de la catastrophe imminente. Bon. Donc ça, on peut comprendre, mais ce qui est plus grave, il me semble, c'est que en faisant pas très bon accueil aux extraterrestres, entre guillemets, il ne s'intéresse pas non plus, du coup, et de fait, aux extraterrestres au sens littéral, c'est-à-dire à la question, j'allais dire de fait, à la question scientifique, objective, de leur existence ou non-existence, y compris d'ailleurs sous des formes rudimentaires qui seraient des protéines ou des bactéries, quoi, qui seraient vraiment de l'ordre d'une, non pas de l'infravie exactement, mais des prémices d'une vie possible. Bon, mais si déjà ça existait, pour beaucoup, ce serait quelque chose d'extraordinaire et méritant qu'on s'y attarde. Et très vite, en fait, Bruno Latour, et c'est même explicite dans ses derniers textes, je pense à Où atterrir, balaye cette question d'un revers de main en disant qu'au fond, les extraterrestres, surtout sous cette forme vraiment dérisoire, des sortes de paramécies cosmiques, c'est aussi peu intéressant, au fond, et ça devrait aussi peu nous exciter que le boson de Higgs. Ça me semble problématique. Ça me semble problématique comme position de principe. C'est-à-dire que c'est là que je pense que c'est pas très accueillant, en effet, parce que ça consiste à dire l'objet de votre intérêt est, au fond, tout à fait contestable. Et si même je peux vous donner droit dans la cité ou dans le collectif des modes d'existence en tant qu'extraterrestre, guillemets, je ne peux pas accorder une valeur entière à l'objet de votre intérêt, à savoir les extraterrestres en guillemets. Bon, donc ça, je trouve que c'est un point à relever, c'est-à-dire que Bruno Latour, pour le dire simplement, ne s'intéresse pas aux extraterrestres sans guillemets. Et quand il en parle, il en fait mention, en effet, dans la foulée de... Voilà, quand il énumère typiquement des objets qui, d'après lui, ne devraient pas déplacer des foules et qui ne peuvent intéresser que des geeks ufologues ou des scientifiques de la NASA. Bon. Ensuite, il y a la question du religieux, et là, je pense, mais c'est vraiment une pure hypothèse, et je ne serais pas capable de l'étayer sérieusement, mais il me semble, c'est de l'ordre vraiment d'une sorte de pressentiment, il me semble qu'il y a quelque chose, en effet, qu'il y a un lien entre ces deux questions. Le refoulé de la question extraterrestre et le refoulé, d'une autre manière, même s'il y a consacré un livre, et même s'il s'en est jamais vraiment caché, de la question religieuse. Ou disons, la discrétion avec laquelle il aborde ce problème. J'ai le pressentiment qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un effet d'interférence entre les deux questions, la question extraterrestre et la question religieuse, qui explique pour une partie, en tout cas, le fait que Bruno Latour se soit en quelque sorte activement détourné du problème extraterrestre, ou n'ait pas voulu le traiter sérieusement, avec tout le sérieux nécessaire. Peut-être parce que pour lui, d'une certaine façon, ça a orienté l'attention sur une version du religieux dont pour des raisons essentiellement, là, pour le coup, personnelles, des raisons qui tiennent à un positionnement, des options subjectives très profondes chez lui, était pas acceptable, pas compatible avec ce qu'il estimait être le problème religieux. Je veux dire que c'est très évident, il y a une certaine façon, et c'est sensible chez Nathalie Cabrol aussi, hein, ce côté un peu New Age avec lequel elle appréhende ce que serait quelque chose comme une vie et potentiellement une conscience cosmique étendue, distribuée sur des échelles incommensurables. C'est très évident que chez elle, il y a quelque chose comme une version du religieux qui se dessine dans ce faisceau d'intérêt pour la question extraterrestre et dans la manière dont c'est investi avec ces concepts de vie cosmique, de conscience étendue, etc. C'est une version du religieux qui tire dans le sens, disons, d'un vitalisme cosmique, quelque chose qui évoque par un bord les spéculations de Teilhard de Chardin, qui est aussi pas loin de certaines spéculations qu'ont pu entretenir ce qu'on associe au cosmisme russe, hein, bon, justement des gens qui sont aussi à l'origine de l'entreprise technologique de l'exploration spatiale. Bon. Je pense que c'est vraiment aux antipodes, mais alors c'est presque au-delà de raisons partageables. Je pense que c'est aux antipodes de la position subjective singulière de Latour. Sur la question du religieux, il est à 180 degrés de cette orientation-là, il me semble, malgré toutes ces infinités pour ce qu'il y a encore de panpsychisme chez Whitehead ou pour les philosophies du processus. Enfin, l'idée que la question métaphysique ou religieuse puisse être relayée et énoncée dans les formes d'un discours sur la vie cosmique, je pense, lui faisait horreur. Et donc, en ce sens, il est pascalien. Je pense que son régime, malgré le fait qu'il est le penseur des médiations, je pense qu'au fond, son régime subjectif, il est quand même attaché à cette espèce d'acosmisme pascalien, c'est-à-dire, voilà, une conscience humaine, seule sur Terre, enfin, seule dans l'univers, concentrée dans cette petite niche écologique qu'on appelle la Terre, que Latour appelle Gaïa, et qui ouvre l'ordre des questions métaphysiques à partir de ce point de solitude extrême. Cette précarité extrême. C'est aux antipodes du discours un peu vitaliste qui envisage d'emblée la question, au-delà de cette limite, la question d'une vie étendue à l'échelle du cosmos. Bon, ça c'est mon diagnostic et je pense pas pouvoir l'étayer davantage que ça.
Non, mais je souhaitais qu'on l'évoque. Alors j'aimerais en arriver à cette question que tu poses et qui me semble être la bonne question. Je te cite: au peuple de Gaïa et à ses nouveaux ambassadeurs, nous voudrions au fond adresser la demande suivante. En reprenant leurs propres termes, que faut-il mobiliser? Quel lien? Quel agent? Quel médiateur pour permettre à la question extraterrestre de trouver sa juste place au sein des controverses qui agitent cette zone critique que nous habitons bon gré, mal gré? Voici cette question que tu poses, et elle me semble être la bonne, elle me semble être essentielle, parce qu'elle permet justement de relier fortement l'anthropocène, la catastrophe climatique et écologiste, Gaïa à la question extraterrestre. Et pour ça, en reprenant les termes même de la pensée latourienne, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut mobiliser? Quels sont les agents? Alors, c'est difficile. Enfin, tu ne réponds pas, bien entendu, à cette question, parce que c'est la grande question, à mon avis, qui est à travailler et que tu cherches à travailler actuellement.
Ben, c'est-à-dire, c'est à la fois une vraie question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, parce que voilà, bon, je suis pas sociologue des médiations et j'ai une vue assez lointaine de la réalité justement des collectifs qui se forment autour de cette question. J'ai un rapport essentiellement livresque, comme beaucoup de gens, à la question extraterrestre. Je lis des articles et des livres. Bon, je travaille pas à la NASA et je suis pas ufologue, bon, pour aller vite. Et en même temps, cette question, donc une question factuelle pour laquelle j'ai pas de réponse, mais en même temps, je dirais, telle qu'elle intervient là, dans l'économie de l'article, c'est une question un peu rhétorique, parce qu'il me semble qu'au fond, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir constater simplement qu'il y a un faisceau de médiation convergente qui font de l'exobiologie, en un sens large, hein, qui va en effet du centre de l'Institut SETI, l'Institut Carl Sagan de recherche en intelligence extraterrestre que dirige Nathalie Cabrol, jusqu'à des congrégations d'observateurs du ciel, astronomes et ufologues amateurs. Il me semble qu'il y a quelque chose comme un nœud là qui est déjà perceptible, qui est déjà visible et qui devrait suffire en vérité à donner droit de cité dans le collectif à cette question extraterrestre. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, ce soit pas plus clairement repéré et plus clairement accepté. C'est-à-dire qu'il me semble que dans la zone critique et dans le collectif très large des terrestres, les extraterrestres ont de fait déjà leur place, ont déjà leur réseau. C'est aussi des réseaux technologiques. Je veux dire, les rovers sur Mars, c'est pas de la rigolade. C'est des choses qu'on envoie effectivement, qui coûtent des millions et qui envoient des images. Quoi. Bon, donc il me semble que le collectif des extraterrestres et le réseau des médiations est déjà là. Et qu'on devrait prendre au sérieux et regarder avec plus d'attention la manière dont, non pas ils se connectent entre eux sur Terre, ceux qui font, j'allais dire, un peu comme tout le monde, comme tous les collectifs, formellement ça correspond aux catégories de la sociologie latourienne, ou de la philosophie latourienne des connexions. Mais je dirais, ce qui m'intéresse davantage, c'est la manière dont ils s'y prennent pour construire ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exemple de Nathalie Cabrol, c'est-à-dire des ponts ou des médiations analogiques ou métaphoriques avec une possible vie extraterrestre. Et c'est là évidemment que ça sort un peu du schéma habituel, puisqu'on a affaire ici à des collectifs qui se construisent et qui se retrouvent autour d'un intérêt commun ou de matters of concern, hein, des enjeux communs qui concernent la possibilité de se brancher. Alors, pas directement, mais au moins par une série de médiations, de construire les modalités d'un contact possible, d'une rencontre possible avec de l'extraterrestre, sous quelque forme que ce soit. Et ça, évidemment, c'est plus difficile à incorporer dans le discours sur les terrestres, puisqu'il est admis que les terrestres, in fine, n'ont de véritables intérêts communs que ceux qui les font tenir entre eux, qui les font tenir ensemble et entre eux, dans un rapport aussi intense et réel que possible à la Terre. Bon, et là, la bizarrerie, c'est que ces gens essayent de se brancher à toute force sur de l'extraterrestre. Donc ça ne cadre pas vraiment, par cet aspect au moins, avec le schéma général. Bon, mais néanmoins, je dirais, pour revenir à la question que je posais, donc un peu rhétorique, il me semble que toutes les conditions sont réunies pour les prendre au sérieux, c'est un lapsus en tant que collectif. Et c'est des gens qui s'intéressent en effet au cerveau extraterrestre, c'est-à-dire à l'idée d'une intelligence extraterrestre, une question qu'on n'a pas abordée puisqu'on est resté très focalisé sur la question de la vie, mais à l'horizon, il y a cette possibilité aussi vie, conscience, voire intelligence extraterrestre, quelle fonction, quelle signification ça peut avoir pour nous aujourd'hui. Bon. Là, on est vraiment à la limite extrême, vraiment quasiment sur le bord extérieur de ce qui peut encore compter pour une affaire terrestre au sens de la tour. C'est-à-dire que là, c'est les extraterrestres qui s'intéressent sérieusement, qui enquêtent sérieusement sur la possibilité d'une intelligence extraterrestre, sont peut-être la pointe la plus avancée, quasiment la plus extérieure du collectif des extraterrestres. Mais bon, c'est des questions qui, elles aussi, ont un sens scientifique. Ouais. Puisque, en tout cas, c'est de la recherche qui est financée par des programmes, pas simplement des fondations privées, mais aussi des programmes nationaux de recherche.
C'est une bonne partie des programmes d'exploration spatiale. Enfin, ouais. C'est pas juste à la marge, quoi.
Non.
Une grosse partie des programmes d'exploration spatiale tourne autour de cette recherche de la vie. Enfin, sinon, on n'en verrait pas autant d'engins
de la vie. Alors là, plus spécifiquement, de l'intelligence.
Oui,
Tous les exobiologistes ne s'intéressent pas pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que c'est pas les... on ne travaille pas avec les mêmes logiciels intellectuels et les mêmes théories sur la vie et sur l'intelligence. L'intelligence extraterrestre, ça a été pendant longtemps la préoccupation des auteurs de science-fiction, mais aussi alors, du côté de la NASA, c'était cette petite frange qui travaillait sur le problème de la communication, en mobilisant de la théorie de l'information, de la théorie du signal, pour essayer de travailler sur une question très formelle au fond, mais qui est passionnante, qui est de savoir.
Carl Sagan, du coup.
Oui, et Carl Sagan lui-même était.
Parce que là, on revient à Nathalie Cabrol, parce qu'en fait, c'est elle qui prend la suite de Carl Sagan.
Elle dirige l'Institut Carl Sagan, et donc l'enjeu que je trouve passionnant, hein, d'un point de vue strictement épistémologique, c'est quelle idée on se fait de l'intelligence extraterrestre pour que la question d'un contact, mais simplement d'un signal ou d'une détection de signal puisse avoir un sens. Et donc ça suppose en effet de réfléchir à pas simplement une heuristique de la détection, hein, au sens que j'évoquais tout à l'heure, les méthodes agnostiques, d'analyse de la surface des exoplanètes, etc. Mais là, c'est vraiment une sémiotique générale qui permettrait de donner sens à l'idée d'un signal ou d'un message extraterrestre avant même qu'on ait une idée précise de ce que c'est qu'une intelligence extraterrestre. Autrement dit, on aborde, en renversant les choses, la question pratiquement, pragmatiquement, on investit la question de l'intelligence extraterrestre ou d'une rationalité autre, possiblement, à partir des possibilités d'une communication. Et ça, c'est évidemment un enjeu passionnant. Qu'est-ce que doit être l'intelligence extraterrestre si une communication, même minimale, même très fragmentaire et parcellaire, est possible avec elle ? Bon, ça, c'est des questions que le SETI, hein, les programmes de recherche sur l'intelligence extraterrestre, c'est des questions que le SETI travaille de différentes façons, et ça fait partie du problème. Mais je dirais à nouveau, hein, ça concerne vraiment une frange assez limitée du collectif des extraterrestres, puisque je pense que pour l'essentiel, ils s'intéressent davantage au problème de la vie proprement dite. L'intelligence, c'est vraiment en marge, mais c'est là que ça devient métaphysiquement aussi passionnant, parce que si une intelligence extraterrestre, il n'y a aucune raison qu'ils aient la même rationalité que nous. Est-ce qu'il existe des rationalités plurielles? Est-ce qu'il peut y avoir une autre mathématique que la nôtre? Quel sens on peut donner à une telle proposition? Voilà, ça réactive des questions philosophiques très classiques. Mais voilà.
Alors, j'aimerais reprendre à nouveau cette question, notamment celle de l'agent, en fait, puisque tu as cherché à comprendre le désintérêt de Bruno Latour envers les extraterrestres. Tu sens dans ton article quand même identifier clairement le fait que c'est parce que les extraterrestres ne sont pas des agents. Ils ne réagissent pas à notre action. Et la pensée de Bruno Latour tourne quand même là-dessus. C'est est-ce que ça fait faire quelque chose ?
Absolument.
Et si ça ne fait pas faire quelque chose, pourquoi donc s'y intéresser ? En fait, on serait dans le pur spéculatif. Or, on constate bien que les extraterrestres ne nous font rien faire, en fait, et qu'ils ne sont pas complètement des agents. Hormis, ils font faire des choses à des personnes qui disent avoir été enlevées par des soucoupes volantes, ceux qui disent avoir été abductés. Mais bon, cette question-là non plus n'intéresse pas Bruno Latour parce que, après, on est sous un autre régime sur la croyance, sur quel pourrait être ce type de preuve. Enfin, tout cela est après aussi une autre forme de pensée et de spéculation à ce propos-là. Mais Bruno Latour ne considérait justement que les extraterrestres vu non pas le terme d'agent, ils ne nous font rien faire, et que c'est peut-être pour ça, en tout cas c'est ce que tu identifies dans ton article, qu'il ne s'y est pas intéressé plus que ça.
Disons, j'identifie une difficulté de principe qui est en effet celle que tu as dite. Disons, il est difficile de leur donner de plein droit le statut d'agent dès lors qu'on ne les a pas encore rencontrés, pour aller vite.
Oui.
Bon. Et a fortiori s'ils n'existent pas. Si ce sont des fictions ou des hypothèses qui risquent en effet d'être invalidées dans le futur. En même temps, je dirais, pour reprendre ton expression, je ne pense pas que pour autant ils ne nous fassent rien faire. D'ailleurs, on pourrait pousser les choses à l'extrême et dire même s'ils n'existaient pas, quand bien même ils n'existeraient pas, le simple fait qu'on constitue des collectifs d'extraterrestres, guillemets, pour les étudier, donc des gens de la NASA et tu les évoquais, bon, des ufologues et des gens qui étudient comme Pierre Lagrange la question des contacts, d'accord, des témoignages divers concernant les rencontres extraterrestres sur Terre. Le fait que tout ça existe montre bien que cette hypothèse extraterrestre, et quand bien même elle ne serait qu'une hypothèse, voire une fiction, nous fait faire des choses. Donc là, c'est la question de savoir bon, comment est-ce qu'on construit cette notion d'agentivité, comment est-ce qu'elle intervient. Si le critère, c'est ce qui vous fait faire quelque chose, alors je pense que même une fiction vous fait faire des choses. Je pense que, bon, alors, il faudrait reparler de la question du fétiche chez Latour et de la manière dont lui a abordé ce problème. Mais je dirais que ce n'est pas par ce bord-là que je l'ai pris. J'évoque cette question de l'agentivité. Simplement pour pointer, en effet, une difficulté de principe qui a peut-être retenu les Latouriens de s'intéresser sérieusement à la question extraterrestre, c'est que, comme jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas rencontrés, je laisse de côté la question des abductés, hein, c'est délicat, et il y a toute une herméneutique de la croyance qu'il faudrait travailler, et en fait, dans l'article, en tout cas, je ne m'aventure pas du tout sur ce terrain. Mais je dirais que la difficulté de principe, en effet, c'est que si jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas rencontrés, il est quand même difficile de les associer à notre affaire sur le mode où, par exemple, le boson de Higgs a été finalement associé de façon tout à fait tangible, puisqu'on l'a détecté à l'affaire de la physique. Mais précisément, c'est ça le point auquel je voulais en venir, c'est que le boson de Higgs, on n'a pas attendu de le détecter pour qu'il fasse partie de notre affaire. Il en faisait déjà partie en tant qu'hypothèse purement théorique, et puis pendant les longues années on a expérimenté au CERN et ailleurs sur son existence, et ben, il faisait partie de l'affaire, il faisait faire beaucoup de choses, et des choses très coûteuses à beaucoup de monde. Bon, pourquoi est-ce qu'il en irait différemment des extraterrestres? Et donc a fortiori de la vie extraterrestre, qui est une hypothèse scientifique tout à fait plausible et valable. Je laisse de côté à nouveau la question des ovnis. Voilà, donc au fond, si le critère c'est le faire-faire, ça ne devrait pas poser de questions de principe, de problèmes de principe. Donc c'était plutôt, je dirais, c'est un niveau superficiel. Je pense que spontanément, on a envie de s'intéresser à des réseaux de médiation qui concrétisent leur objet de façon plus évidente et qui sont capables de, disons, de l'appeler à témoigner, pour reprendre des termes. Latourien et Stengersien, au sens où les objets scientifiques peuvent intervenir, au fond, sur ce mode. Les extraterrestres, jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas identifiés, on ne les a pas localisés, et donc c'est comme si leur place était inscrite en creux par l'ensemble des médiations qui les visent, mais tant que le contact n'a pas été établi, mais il ne suffira de pas grand-chose, il suffit de prélever un peu d'eau sur Mars et d'y voir les prémices de simplement une infravie pour que la question prenne un sens très concret. Et là, on verra les médiations se précipiter sur une première concrétion, quoi. Ensuite, il faudra se demander sérieusement en quel sens ces choses-là sont des agents. Mais il n'y a pas de raison de leur dénier ce statut a priori,
Oui, c'est ce que tu écris aussi en conclusion, pour faire retour à Nathalie Cabrol, que tu as convoquée. Tu écris « Quant à la vie au sens étendu, ce sont des faits qu'il nous faut, ouais. Mais plus encore, des constructions effectives capables de l'embarquer comme agent.
Ouais. »
Et c'est précisément ce que l'astrobiologiste, donc Nathalie Cabrol, entend pourvoir.
Oui, alors c'est aussi une résonance pascalienne. Hein. Nous sommes embarqués, la question du pari, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire la sourde oreille ou simplement refouler la question. Elle nous rattrapera, de toute façon. Alors, le jour où on aura détecté de la vie sur Mars ou ailleurs, probablement pas sur Mars d'ailleurs, la question va nous rattraper et on sera embarqués. C'est-à-dire qu'il faudra revenir sur le problème, clarifier les enjeux. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir, en effet, si les médiations, là, les réseaux extraterrestres, avec guillemets, hein, les réseaux d'humains, enfin, les chaînes de médiation humaines, non humaines, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de technologies et donc de machines et d'intelligence artificielle dans cette affaire, si elles sont capables de pas simplement nous embarquer, je veux dire, nous autres, le public large, qui n'est pas du métier, mais aussi, en effet, d'embarquer l'objet lui-même, de faire en sorte que l'extraterrestre, hein, au sens littéral, sans guillemets, que ce soit une proto-vie extraterrestre ou un petit bonhomme vert, ait suffisamment de densité, de concrétude pour, en effet, être embarqué dans notre affaire, et vraiment. et pas simplement au titre d'hypothèse ou de fiction imaginaire.
Ouais. J'aimerais du coup, pour terminer, mieux comprendre quelle place prend cette pensée de l'extraterrestre dans tes recherches générales. Parce que c'est pas, tu n'as pas écrit juste cet article
Ouais.
comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une préoccupation ancienne. C'est quelque chose aussi qui est en filigrane dans dans nombre de tes travaux. Ce n'est pas quelque chose qui surgit comme ça dans tes recherches nouvellement. C'est quelque chose qui te travaille depuis très longtemps.
Il y a deux façons de répondre. Il y a une façon quasiment biographique, enfin, qui consiste à renvoyer un imaginaire de science-fiction qui m'a toujours accompagné de près ou de loin, donc y compris dans les travaux que j'ai faits sur la réception de la relativité chez les philosophes, bon, la question de l'espace-temps. Bon, très rapidement, on est pour le coup embarqué dans des questions qui sont lisières de la science-fiction. Bon. La question voilà, de l'espace-temps a percolé dans la littérature de science-fiction de plein de façons, et donc ça m'a intéressé. C'est pas étonnant que je retrouve donc par la bande un peu la question extraterrestre, même si n'étant pas spécialisé dans l'épistémologie de la biologie, bon, la question de la vie proprement dite n'a jamais été vraiment au centre de mon affaire. Là, bon, je suis un peu obligé de le recroiser. Je dirais que la question quand même de la vie extraterrestre permet de dramatiser et de donner un tour concret à quelque chose dont on se rend compte très rapidement dès qu'on se penche un peu sur les questions d'astronomie ou d'astrophysique, c'est les échelles de temps et d'espace absolument démentes, proprement incommensurables, enfin qui excèdent l'imagination habituelle. Je dirais que au lieu de les appréhender comme des puissances de 10 et de se laisser prendre par le vertige, insérer l'hypothèse extraterrestre dans ce décor cosmique, c'est une façon de rendre extrêmement concrète disons, ces problèmes d'échelle et de ne pas les laisser à leur statut d'abstraction formelle. Il y a vraiment quelque chose qui, au-delà du problème quantitatif, qui tient, pour le dire intuitivement, au degré de dispersion, au degré de discontinuité et de dispersion des zones potentiellement habitables au sein de l'univers. Si on commence à réfléchir sérieusement à l'hypothèse extraterrestre, donc à l'hypothèse pas simplement du développement de la vie ou de coévolution à l'échelle cosmique, mais aussi des possibilités d'interaction, que ce soit des voyages interstellaires ou des émissions de signaux et messages, bon, y compris à la vitesse de la lumière, on s'aperçoit que bon, voilà, la prochaine constellation, si elle a plusieurs centaines d'années-lumière de telles zones, un simple échange de bonjour, quoi, comme dans les Cosmic Comics d'Italo Calvino, va poser des problèmes de communication. Inouï. Et même si on se donne le temps par hypothèse ou fictionnelle, même si on imagine des gens qui pourraient travailler sur des générations et des générations, donc, qui s'installeraient dans cette espèce d'échelle de temps cosmologique pour échanger ou communiquer avec d'éventuelles populations extraterrestres, on est confronté de toute façon à cette difficulté qui est que la vie, si elle existe, est sporadique. Elle est clignotante. Et bon, c'est un des gros problèmes. De l'hypothèse extraterrestre, c'est que rien ne dit qu'ils soient contemporains de nous. Si même ils le sont, la communication avec eux pourrait prendre tellement de temps qu'on serait peut-être nous on aurait peut-être déjà quitté la surface du globe, ou se serait laissé imploser. Puis inversement, peut-être qui nous dit que les messages qu'on serait susceptible de recevoir n'ont pas été envoyés il y a plusieurs millions ou milliards d'années. Bon, enfin voilà. Là, je spécule et ça ressemble à beaucoup d'hypothèses de romans de science-fiction, mais cette espèce de caractère distendu de la communication interstellaire prend un tour extrêmement, extrêmement concret quand on commence à raisonner sur l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une vie ou une intelligence extraterrestre. Donc, pour moi, c'est une façon de dramatiser ces questions d'espace-temps aussi, par ce biais-là. Bon, et après, je dirais, et pour reboucler sur la tour, il y a un enjeu plus local, plus critique ou stratégique. J'ai depuis longtemps, tout en étant un très grand admirateur de l'œuvre de la tour, et je l'ai fréquenté très tôt dans ma formation philosophique, depuis la science en action au moins, j'ai toujours été gêné par sa caractérisation, la caractérisation qu'il donne du naturalisme qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que, au fond, les sciences modernes, et encore pour une large part contemporaine, disons la philosophie spontanée des savants, l'idéologie de la science, pour employer une catégorie un peu surannée, perpétuer pas simplement le partage entre des questions de fait, des questions objectives et des questions relevant de l'affairement humain, de la culture, de la politique, etc., mais que ce naturalisme, au fond, se définissait à partir d'une vision objectiviste et en fait quasi mécaniste d'un univers qui serait comme une vaste horloge, d'un univers gouverné par des lois universelles et éternelles, et qui me semble être au fond une caricature de ce qu'a été peut-être un certain discours de la science dans le sillage de Galilée, et je dirais plutôt de Newton et Laplace en vérité. C'est-à-dire en effet l'idée d'un univers gouverné par des lois éternelles. La Tour va très loin dans ce sens, puisque justement dans ses conférences sur Gaïa, il évoque cette science galiléenne, et sa philosophie naturaliste, en expliquant qu'elle est solidaire au fond du monothéisme, que lui, la Tour, désigne comme des anti-religions, enfin, au sens où justement la façon dont le monothéisme s'est auto-représenté et théorisé lui-même a consisté souvent à défaire les liens, à séparer, à instituer une transcendance absolue, d'un divin extérieur à la nature, etc., au lieu de relier, ce qui est pour Latour évidemment la fonction anthropologique première de la religion. Donc il y aurait une solidarité du monothéisme déliant, anti-religion, et de la science moderne universalisante, monologique et nomologique, c'est-à-dire entièrement fondée sur l'idée de loi, d'un corpus de lois qui en serrerait la réalité et qui en rendrait compte rationnellement. Or ça me semble être très largement une conception mythique qui a été dépassée depuis le déclin du positivisme. Michel Serres ne cesse de dire depuis le début de son œuvre que cette vision-là, c'est celle d'Auguste Comte et qu'elle était objectivement déjà dépassée par le discours des scientifiques eux-mêmes dès la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire avec les travaux autour de la machine à feu de Carnot et la thermodynamique. Voilà, donc ça m'a toujours gêné, et c'est une des raisons qui fait que je m'intéresse aujourd'hui à la question extraterrestre, parce que je pense qu'elle permet de compliquer singulièrement ce qui, dans le latourisme, m'apparaît quand même comme une sorte d'image d'épinal du naturalisme scientifique, dont je me demande souvent s'il ne désigne pas plutôt une version philosophique et philosophisante, partagée ou non par les anthropologues, mais qui me paraît très peu correspondre à la réalité des sciences contemporaines. Alors Latour, d'une certaine façon, le reconnaît lui-même, puisqu'il dit qu'il faut regarder ce que les sciences font, et non pas ce qu'elles disent qu'elles font, mais je ne suis même pas certain qu'elles disent exactement ce que Latour pense qu'elles disent.
Et Nathalie Cabrol en serait...
Alors certainement, oui, c'est certainement un contre-exemple, puisqu'elle s'inscrit explicitement à rebours de cette vision naturaliste et tendanciellement réductionniste d'une nature désanimée, et qu'il faudrait du coup... C'est ça le danger que pressent Latour. À nouveau, on revient à la question de son désintérêt pour les extraterrestres. Il y a toujours chez Latour le soupçon que, comme on part du principe que la nature, comme la scientifique nous a habitués à l'idée que la nature était une sorte de cosmos vidé de tout principe d'animation, délavé, purgé de ses qualités secondes, des métamorphoses, comme il dit, et se réduisait à une sorte de vaste horloge, comme on part de cette idée, toute tentative de réinvestir la question de la vie au-delà de ses limites terrestres, donc notamment de la vie cosmique, va se payer de ce qu'il appelle, lui, la suranimation. C'est un état d'excitation intellectuelle qui fait que on va verser dans le vitalisme, par exemple, ou dans quelque chose comme une sorte de rêverie cosmologique sur les mondes multiples, et qui lui paraît douteuse, parce que solidaire, au fond, mais par réaction, par retournement des valeurs, du naturalisme scientifique. On aurait une suranimation de la nature qui est liée au fait qu'on l'a désanimée et réduite à une vaste horloge. Bon, je pense que cette situation est efficace rhétoriquement, cette description est efficace rhétoriquement, mais elle ne décrit pas exactement, je pense, ce qu'on vit aujourd'hui, ni même ce que les sciences disent, ce que la plupart des scientifiques disent de ce qu'ils font et de ce qu'ils vivent. À nouveau, Nathalie Cabrol en est un excellent exemple.
Merci beaucoup, Olivier Düring.
Merci.